L'émission qui suit est animée par un maniaque et comporte des propos stupides, virulents et quelque peu sarcastiques. Nous préférons vous en avertir.
Wake up! Vous écoutez présentement Wake Up avec Ismaël Trépanier de 6h à 10h pour le Québec et de midi à 16h pour l'Europe.
Pour rejoindre l'animateur en ondes, de toute façon,
vocalement et gratuitement via Skype ou écrivez via MSN à live@rocky.com.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.
Sir, yes, sir.
I'm going to hang up this phone. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
The Punisher.
Live@rocky.com, MSN ou encore pour Skype, c'est la façon de nous joindre en studio. On botte des derrière du lundi au vendredi, on botte des derrière. On va se connecter avec M. Reichmann, on a déjà un petit 11 minutes de retard parce que j'ai discuté avec quelqu'un hors d'onde et on avait une conversation très enflammée d'une certaine façon. Versus les petits garçons et les petites filles. Bonjour, M. Reichmann, comment allez-vous?
Très bien, merci, et vous-même?
On a déjà 1h11 de retard. Notre intervenant nous a mangé beaucoup de temps, a mangé beaucoup trop de temps. Et je tiens à m'excuser auprès de vous, M. Reichmann.
Ça n'est pas grave, l'essentiel c'est que nous puissions nous parler.
Eh bien voilà, moi j'aime ça entendre, c'est comme de l'eau qui coule à mes oreilles quand vous me dites ça, M. Reichmann, quand même. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Déjà le week-end qui se prépare là, en perspective.
Et oui, c'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu la bourse et je me suis aperçu que tout allait bien, donc j'ai passé une excellente semaine.
Ouais. Ah,
bien, bien, bien que je ne sois pas personnellement investi en bourse, mais ça fait déjà pas mal d'années que les toutes petites actions que j'avais ont été vendues parce que je n'avais vraiment qu'une confiance très limitée dans l'évolution du système actuel, et je crois qu'effectivement les faits sont venus confirmer cette défiance.
Avec le dernier intervenant que nous avons eu, André Arthur, communicateur de 35 ans de métier, oui. Très connu du côté de notre côté, bien sûr, Monsieur Reichmann, peut-être moins du vôtre, mais André Arthur est un personnage très imposant de la radio. Et on discutait, justement, vers la fin de notre entretien, on discutait de la fameuse mixité dans les classes hommes et femmes, hein, les jeunes hommes et les jeunes filles. On parlait, et j'aimerais avoir votre point de vue aussi, vous, de votre côté en France. Comment percevez-vous la chose sur le fait que les hommes sont de plus en plus mis de côté dans les écoles, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, etc.? Est-ce que vous croyez que les hommes sont mis de plus en plus de côté? Parce que en France, en cours de sport à l'école, par exemple, on pratique les sports collectifs en mixité. Alors imaginez-vous faire un match de basketball contre les filles. C'est un exemple parmi tant d'autres par rapport au sport, par rapport à l'enseignement. Est-ce que les hommes sont mis de plus en plus de côté? Croyez-vous qu'ils sont mis de plus en plus de côté?
Mais vous parlez des élèves, ou est-ce que vous
parlez... Des élèves, tout à fait.
Bah, écoutez, je pense que ça ne peut pas être compris si on n'estime pas cette affaire à son véritable niveau, c'est-à-dire l'accession des femmes à l'égalité. Et donc, à partir de là, elles ont conquis l'égalité des droits en France à partir de 1945, où elles ont eu le droit de voter, et puis au fur et à mesure que le temps a passé, les femmes se sont insérées de plus en plus dans tous les métiers, et aujourd'hui, la mixité est générale. Il y a même d'ailleurs des professions qui se sont entièrement féminisées, ce qui pose de gros problèmes. Je pense à la justice, qui a été une des premières à se féminiser en France, en tout cas.
Exact.
Ce qui pose des problèmes, parce que une justice qui n'est rendue que par des femmes, ou en tout cas par des femmes qui sont majoritaires, est une justice qui n'est pas équilibrée par définition, puisque le point de vue des femmes n'est pas forcément différent de celui des hommes, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une composante sexuelle dans l'attitude des gens. Quand je dis sexuel, c'est l'appartenance à un sexe, bien sûr. Et puis la médecine également, qui est devenue extrêmement riche en femmes, si bien que les femmes, ne voulant exercer le plus souvent leur activité que d'une manière un petit peu moins soutenue que les hommes, parce qu'elles ont à faire face, bien entendu, aux soucis de la maternité et de l'éducation des enfants,
oui.
Vous avez un nombre important de médecins qui ne trouvent plus de remplaçants, parce que les femmes, d'abord, la plupart des femmes sont mariées. Donc si leur mari est sa situation en ville, on ne peut pas imaginer qu'une femme aille s'exiler quelque part en province ou dans la campagne pour exercer la médecine, etc., etc. Alors, à cela, il faut ajouter un phénomène qui découle, je crois, du précédent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ont assumé une pleine et entière responsabilité, les hommes se sont sentis, d'une part, déchargés de ce qu'ils assumaient, plus ou moins bien d'ailleurs, mais ils s'en sont sentis un petit peu plus libres, et de ce fait, ils se sont comportés d'une manière un peu plus infantile. Et moi, je pense que le vrai problème actuel, c'est l'infantilisation des hommes, beaucoup plus que tout autre phénomène. Et c'est probablement à ce niveau-là que la mixité pose problème.
Dû à la féminisation de la société. Voilà. On infantilise les hommes, on les déresponsabilise, chose que les femmes, dans le but de protéger, hein, dans le but de materner, c'est tout simplement ça. On le voit. Ce n'est pas méchant. J'ai jamais dit que c'était pour être... parce que il y a des gens qui me reprochent souvent que je tiens les propos misogynes. Mais attention, là, j'ai jamais dit que materner, c'était mal ou c'était dangereux. Non, mais c'est simplement qu'à un certain moment donné, les hommes, on pense différemment. Et que ce que je prône, c'est qu'il y a quand même un juste milieu, un équilibre, M. Reichmann. Et je m'aperçois que ce n'est pas ça du tout qui se produit. Tant du côté de la France, tant du côté québécois.
Oui. L'équilibre a été rompu, ou du moins un certain équilibre a été rompu par l'accession des femmes a une entière responsabilité, une entière liberté également, au même titre que les hommes. Et à partir de là, en effet, il y a eu une différence de comportement. Et il ne faut pas oublier non plus que les divorces, d'après ce que je sais, sont le plus souvent réclamés par les femmes qui ne sont pas satisfaites du comportement de leur mari, pour autant qu'on se marie d'ailleurs, parce que maintenant il y a de plus en plus d'unions qui se font sans mariage. Donc la société est entièrement en cours de transformation, et de ce fait on en est arrivé aussi à ce phénomène des familles recomposées, dont certains disent le plus grand bien, mais qui finalement n'apparaissent pas quand même comme le modèle de la famille, même si il vaut mieux avoir une famille recomposée que pas de famille du tout dans certains cas. Mais enfin, vous savez, tout ça, ce sont des problèmes d'évolution de la société qui n'ont pas encore fini d'apporter toutes leurs conséquences. Je ne suis pas sûr que les gens soient bien conscients de ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça qu'il est très difficile actuellement d'élever des enfants, par exemple, parce que tout le monde sait bien que ça n'est pas tellement les conseils qui sont importants en matière d'éducation que l'exemple. Et comment voulez-vous que des enfants qui ont l'exemple de couples décomposés, puis de familles recomposées, puis de gens qui n'assument pas leurs responsabilités, puissent se comporter eux-mêmes de manière responsable? D'ailleurs, il est bien connu que la reproduction des conduites est un phénomène qui se répète très très généralement, et il n'était pas rare, puisque maintenant c'est devenu tellement important qu'on finit par ne plus faire de statistiques, que les enfants de couples divorcés divorcent à leur tour, et c'est comme ça que la société finit par ne plus marcher très droit, et actuellement c'est manifestement le cas. Alors c'est d'autant plus flagrant que le milieu social est moins élevé, dans la mesure où il y a quand même dans un milieu social plus évolué, plus à l'aise.
Oui.
Des exemples qu'on peut retenir, mais là, on voit bien, par exemple, aux États-Unis, un des facteurs de délinquance a été aussi la multiplication des familles monoparentales, essentiellement chez les Noirs, d'ailleurs, c'est statistique, et ça se traduit par de grands troubles dans la société. Donc, tout commence quand même, qu'on le veuille ou non, par un noyau familial qui soit composé de manière aussi solide que possible. On peut le dire sans être qualifié d'être rétrograde ou d'être vieux jeu, mais franchement, je crois que ça n'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est forcément bien, ni d'ailleurs parce que c'est ancien, il y a des choses qu'il faut changer. Mais en ce qui concerne les relations de couple et les relations de famille, rien ne vaut la stabilité.
Monsieur Reichmann, récession, on annonce une fameuse récession du côté américain. Est-ce que sur les marchés européens, on retrouve, on sent le ralentissement chez les Américains? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs du côté de l'économie, peut-être en France ou ailleurs? Est-ce qu'il y en a sûrement eu?
Pas encore en ce qui concerne les conséquences directes, parce que le ralentissement américain est seulement soit commencé tout juste, soit peut-être en cours depuis peu de temps, et pour l'instant, si ralentissement il y a, il n'est pas dû spécifiquement à la contagion de la situation américaine, mais il est inévitable que ça doive venir, puisque vous savez que les conséquences de toute crise économique ou de tout boom économique d'ailleurs ne se font sentir qu'après 6 mois ou 1 an en Europe. Donc on peut s'attendre maintenant d'abord à ce que l'Amérique entre en récession, voire même en dépression, ça on n'en sait rien, et qu'ensuite l'Europe en subisse les conséquences. Mais vous connaissez la définition que le président Ronald Reagan avait donnée de la récession et de la dépression. Il disait la récession, c'est quand votre voisin perd son boulot. Et la dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. Et le redressement, c'est quand le président Carter perd le sien, parce qu'il était candidat contre Carter. Voilà. Et donc, là, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer aux États-Unis, mais enfin, la plupart des experts pense qu'on va entrer au moins en récession et que les conséquences se feront sentir inévitablement en Europe. Mais en Europe, ça aura des effets assez divers parce que
selon vous, ça pourrait être quoi ces effets divers? Par exemple, vu la dette de la oui. France. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui tombent complètement, qui n'auraient pas
le
choix
de se mettre sur la... de signaler ce phénomène, parce que ce qui se passe, c'est que les États européens ont tous rétabli leurs comptes budgétaires et leurs comptes sociaux, à peu d'exceptions près. L'Allemagne, par exemple, est en excédent budgétaire, léger excédent, mais excédent quand oui. même, et elle a, depuis 3 ou 4 ans, rétabli l'équilibre de ses comptes sociaux. Les autres pays sont dans une situation à peu près équilibrée aussi, sauf la France, qui, pour l'année qui vient de s'écouler, l'année 2007,
oui.
affiche une quarantaine de milliards d'euros de déficit budgétaire, auquel il faut ajouter une dizaine ou une quinzaine de milliards d'euros de déficit des comptes sociaux, ce qui fait 55 milliards environ, et une dette qui, vous venez de le citer, s'élève à au moins 1218 milliards si on ne compte que les engagements financiers, sans compter les engagements de l'État vis-à-vis des retraites de ses fonctionnaires. Donc le problème qui se pose est le suivant. Quand il y a une crise de récession, l'État le plus souvent est amené à desserrer un tout petit peu la vis des crédits de manière à redonner un petit peu de mordant à l'économie, et même si ça n'est pas tout à fait orthodoxe, mais enfin c'est quand même une méthode qui permet le plus souvent de réduire la durée de la crise. Mais pour cela, faut-il encore avoir le moyen de se créer des déficits? Or, pour créer des déficits, il faut pas en avoir trop. Ça semble une vérité de la palisse, mais c'est pourtant la vérité. Or,
justement,
la France a déjà un déficit énorme.
Un gros
déficit.
C'est
pour ça qu'on a, voilà, elle a un trou et on n'a pas de marge de manœuvre. Et ça, c'est vraiment extrêmement préoccupant, parce que quand la crise va arriver... Chez nous, enfin, elle est déjà en France, elle est larvée, mais elle va forcément arriver dans l'ensemble de l'Europe, et naturellement la France sera touchée. Il ne faut quand même pas oublier non plus que la France ne pourra pas facilement se rattraper sur les autres marchés par son commerce extérieur, lequel est très gravement déficitaire, puisque nous allons afficher dans quelques jours un déficit commercial de l'ordre de 40 milliards d'euros, alors même que l'Allemagne, elle, va afficher 200 milliards d'euros d'excédent commercial. Et donc, nous ne pourrons pas beaucoup nous rattraper, parce que si les marchés européens baissent, c'est-à-dire s'il y a moins d'activité en Europe, nous faisons, nous, en Français, notre commerce extérieur à peu près à 65%, 66% avec l'Europe. Et nous sommes mal placés sur les marchés
oui.
émergents. Donc, tout ça va produire des conséquences en chaîne, et ce qui m'amuse le plus, enfin, si je puis dire, parce que ça n'a vraiment rien de drôle, c'est...
Non, c'est pas drôle.
La déclaration qu'a faite M. Éric Woerth, qui est le ministre français du budget. Alors, il a indiqué, c'est tout à fait extraordinaire, au moment où l'État affiche une quarantaine de milliards d'euros de déficit, que ce résultat s'explique, je cite, par une maîtrise sans faille de la dépense. Alors, vous imaginez ce que c'est que la maîtrise sans faille de la dépense quand on affiche
ouais.
un tel déficit? C'est comme si vous aviez une forte dette vis-à-vis de votre banquier et que celui-ci vous disait, cher monsieur Trépanier, il faudrait quand même songer à rembourser votre dette. Et vous diriez, bah, écoutez, moi j'ai, je sais pas, 20 000 dollars de déficit de mon budget, mais c'est grâce à ma maîtrise sans faille de la dépense. Là, le type, il dirait, mais il est devenu fou, quoi, c'est pas possible de dire la chose pareille. Ben, un ministre, ça passe.
Oui, paraîtrait-il que ça passe.
Oui, ça passe pour l'instant. Et puis, il vient un jour où ça casse.
Oui, ah oui, exactement. Et là, jusqu'à maintenant, c'est vraiment, oui, effectivement, c'est beaucoup plus du côté, même du côté canadien, je réitère ce que je voulais dire. Du côté américain, ils refusent en ce moment, M. Eichmann, de dire qu'ils ont, qu'ils sont aux prises avec une récession. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi ils n'avancent tout simplement pas qu'effectivement il y a un ralentissement de leur côté? Comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient leur venir en aide, je ne sais pas.
Ben, pour l'instant, le ralentissement n'est pas totalement constaté.
Non.
Il y a des signes de ralentissement,
il y a
bien
des
sûr.
Signes.
Mais il n'y a que des signes. Alors, le reste, c'est du commentaire. Par exemple, M. Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale, a déclaré que la récession avait commencé. Mais d'autres n'avancent pas les mêmes observations. Mais la raison est simple, c'est que les milieux officiels ne veulent pas accentuer encore la récession en sapant le moral des acteurs économiques. Bon, de même qu'en France, vous savez qu'il y a eu une affaire de la Société Générale qui a perdu 5 milliards dans des placements plus... enfin, certains disent délictueux par l'effet d'un trader, d'autres sont assez sceptiques sur les raisons, mais enfin, ce qui est certain, c'est que quand on affiche de telles pertes, les officiels arrivent immédiatement pour vous dire mais la situation est sous contrôle, jamais la situation n'a été aussi saine, nous sommes absolument tranquilles, tous les mécanismes sont respectés, d'ailleurs nous avons rétabli nos comptes, c'est-à-dire que la Société Générale a été obligée de lancer en quelque sorte un appel à l'ouverture de capital, donc elle a mandaté deux banques, je crois, qui vont essayer de trouver 5 milliards sur le marché, mais en même temps la Société Générale est menacée bien entendu d'une OPA qui sera probablement hostile évidemment de la part de concurrents. Donc pour revenir à votre question, les milieux officiels ont toujours tendance à minimiser, seulement le problème c'est qu'il vient un moment où ça devient ridicule. Quand vous entendez la ministre française de l'économie qui estime que tous les fondamentaux de l'économie sont sains, vous avez envie de, je ne sais pas, soit de vous mettre très en colère, soit de rigoler fortement.
Ben exactement,
vous savez que la croissance est très faible, que la dette est énorme, que le déficit n'arrive pas à être contenu.
Et
elle appelle des fondamentaux sains, c'est absolument fou de dire des choses pareilles.
Mais c'est un mensonge. Et le contribuable, est-ce que vous croyez que le contribuable français croit cela? Quand pourtant, le rapport de force du contribuable, lorsqu'il vient le temps d'acheter, de faire son épicerie, hein, ou encore de s'acheter des vêtements, eh ben, il n'en a pas vraiment pour son argent. Au contraire, il en a moins dans son portefeuille, M. Reichmann. Je trouve que c'est très malhonnête d'avancer des choses comme ça de la part de cette femme.
C'est surtout, je pense, assez stupide, parce que cette façon de s'exprimer est tellement vieux jeu que ça finit par... Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, personne n'y croit. Puis ensuite, ça déconsidère quand même les gens qui tiennent ces propos, parce qu'on ne peut pas avoir de la considération pour des gens qui mentent de manière aussi effrontée. Donc, alors que c'est une femme intelligente par ailleurs, mais je ne comprends pas qu'elle s'exprime de cette manière. Une fois encore, je ne dis pas qu'elle est la principale responsable, parce que, vous savez, en France, actuellement, les ministres ne comptent pas beaucoup. C'est le président lui-même qui compte pour l'essentiel. Mais il n'empêche que chacun devrait être responsable de sa parole, et en particulier le ministre Wirth, qui n'est pourtant pas un imbécile, loin de là, ne devrait jamais dire qu'ils ont réussi, il a réussi à une maîtrise sans faille de la dépense. Je veux dire, quand on en arrive à tenir des propos qui sont démentis à ce point par les faits, on se ridiculise.
Mais justement, qu'est-ce que ces gens-là tentent en amenant des choses aussi erronées, M. Reichmann, parce que, dans le fond, ça ne les mènera pas plus loin que de faire rire d'eux, justement, en faisant croire que, on a réussi à contrôler ou à redresser la barre, M. Reichmann.
Oui, ben c'est à peu près ça. Je vous avoue que j'ai du mal à rentrer dans leur psychologie.
Oui. Moi aussi.
Enfin, moi, quand je tiens des propos, quand j'ai l'impression d'avoir commis une erreur en m'exprimant, ça m'inquiète. Je me dis, est-ce que je suis sûr? Je vais vérifier aussitôt. Oui. Et dans la mesure du possible, si j'ai commis une erreur, j'essaye de la démentir, de réparer l'erreur. Mais eux, à mesure que le temps passe, plus ils font d'erreurs et plus ils disent qu'ils ont raison. C'est absolument terrifiant, quoi, d'être gouverné de cette manière-là, parce que plus personne ne croit en rien. Et vous savez que le fondement de l'économie, c'est la confiance. Vous pouvez, dans n'importe quelle économie où il n'y a pas de confiance, multiplier tous les actes que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais de résultats. Or, la France, justement, est une société de défiance. En France, seulement 25%, et c'est un sondage qui a été fait récemment, seulement 25% des Français ont confiance dans les autres. Des enquêtes à peu près identiques dans des pays comparables ont démontré que il y avait à peu près 60-70% des gens qui avaient confiance dans les autres. Une société ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Et il se trouve que pour rétablir la confiance, il faudrait que ceux qui en sont en principe les détenteurs au degré suprême, c'est-à-dire les gouvernants, puisqu'ils ont été élus pour diriger le pays, fassent preuve d'un comportement qui inspire la confiance. Or, quand ils racontent n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils inspirent sinon une défiance supplémentaire?
Exact.
Donc voilà, on en est là, et je pense que tant que nos gouvernants n'auront pas compris cette leçon, rien ne s'améliorera en France, et je crains, hélas, que ça ne continue pendant un certain temps encore à aller dans le mauvais sens, parce que On voit bien que les déclarations des gouvernants sont presque toujours marquées par un déni des réalités. Et c'est ça qui est terrible. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais il vous est probablement, à vous comme à moi, arrivé d'avoir un différend avec des journalistes ou avec un journal.
Ah ben souvent, monsieur Reichmann.
Souvent, voilà. Souvent. Et il m'est arrivé d'avoir un échange de propos, ou le plus souvent de propos écrits. Il m'est arrivé d'écrire à des journaux qui n'avaient pas dit la vérité ou qui s'étaient trompés, etc. Et je le faisais évidemment en termes courtois, parce qu'il ne s'agit pas d'insulter les gens, bien entendu. Et j'avais toujours été frappé par la violence de leur réplique. Ils disaient « ça n'est pas vrai, ils veulent absolument avoir toujours raison ». Et je me demandais, mais pourquoi quelqu'un qui est normal, et je n'ai pas de raison de penser que les journalistes ou les directeurs de journaux ne sont pas normaux, pourquoi se comportent-ils de cette manière-là ? Et tout d'un coup, c'est l'autre jour, en réfléchissant au problème de la justice qui refuse toujours de reconnaître ses erreurs, que je me suis dit, mais au fond, le problème des journaux est le même. Bon, ils ne distribuent certes pas la justice au sens judiciaire du terme, mais ils sont des espèces de juges de paix qui disent le bien et qui disent le mal. S'ils sont pris en flagrant délit d'erreur, ou pire, de mauvaise foi, la confiance qu'on peut avoir en eux diminue, voire disparaît, et à ce moment-là, ils perdent toute espèce de crédibilité. Et c'est probablement la raison pour laquelle ils sont aussi énervés quand on les met en cause. Moi, j'ai eu récemment une discussion avec un journaliste dont j'avais mis le journal un petit peu en boîte, quoi, si vous voulez. C'était rien de bien méchant.
Rien de méchant, monsieur Reichmann, vous l'avez mis en boîte. Non,
franchement, rien de méchant. Je suis capable d'être un petit peu plus méchant, je veux dire.
Oui, je...
Et j'avais été surpris de sa réaction parce que il avait en quelque sorte trouvé que j'avais franchi les bornes. Alors que j'avais simplement dit que, peut-être que le journal pourrait être un petit peu plus incisif, etc., ou un peu plus cohérent dans certaines choses. Mais le simple fait de toucher à la cohérence de la publication a fait que ce garçon est devenu très, très nerveux et a fini par penser que j'avais commis un crime, de lèse-majesté. Et c'est un petit peu, je pense, la déviation judiciaire. C'est-à-dire que quand vous êtes investi d'une mission, que vous croyez investi d'une mission quasiment de droit divin, eh bien, la simple remise en cause de ce droit divin fait de vous quelqu'un qui est une sorte d'apostat, si vous voulez. Donc on vous traite comme si vous aviez injurié le prophète. Ce qu'il faut, bien entendu, se garder de faire, surtout dans les civilisations occidentales.
Auditeurs nous pose certaines questions. Je ne sais pas si vous allez y avoir réponse, monsieur Reichmann. J'en suis persuadé, de toute manière. Comment expliquez-vous, nous demande Chris, comment expliquez-vous que des experts disent, dans le fond, ne plus dépenser, alors qu'on devrait faire, ça devrait peut-être être le contraire concernant la récession. Il y a beaucoup d'experts qui s'entendent à dire non, ne dépensez plus, attendez pour justement l'achat d'une voiture ou encore l'achat d'une maison ou autre. Pourtant, aux États-Unis, ils mentionnent une chose, c'est de continuer à dépenser. Est-ce qu'on a dit de votre côté de cesser de dépenser ou enfin quelque chose comme ça?
Bien, les autorités de la République disent qu'il faut dépenser, bien évidemment, puisque la consommation représente l'essentiel de la petite croissance française.
Voilà.
Aux États-Unis, la consommation, c'est 70% de la croissance aussi.
Exact.
Donc tous ceux qui ont une responsabilité dans l'État, dans l'économie, souhaitent que la consommation continue. Alors j'imagine que ceux qui donnent le conseil de ne pas dépenser s'adressent vraisemblablement à ceux qui ne peuvent dépenser qu'en empruntant. Parce que à partir de là, ça devient un autre type de dépense. D'ailleurs, la crise actuelle que nous vivons, c'est une crise de l'endettement. Et c'est une crise d'emprunts qui ne sont pas, que les emprunteurs ne parviennent plus à payer. Donc c'est probablement le conseil de prudence que ces gens donnent, mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de donner ce genre de conseil pour que les gens s'abstiennent, parce qu'ils sont inquiets, et quand on est inquiet sur ses revenus, sur l'avenir de son emploi, et d'une façon générale sur l'état de l'économie du pays dans lequel on vit, sur l'économie mondiale, on n'a pas une tendance irrépressible à dépenser. Donc je crois que ceux qui donnent ce conseil sont à la fois des gens qui volent au secours d'attitude qui sont déjà adoptés, et par conséquent on est dans les deux cas, on est, je pense, dans le domaine du parler pour ne rien dire, parce que les gens n'ont pas besoin de ce type de propos. Ce qu'il faut dans une circonstance comme celle-ci, ce sont des actes. Alors les Américains ont accompli certains actes, certains pensent que c'est insuffisant, d'autres sont un petit peu plus optimistes, mais enfin, c'est ce qu'on attend des gouvernants. Bon, le président Bush a mis sur la table un plan de 140 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 1% du produit intérieur brut, et la Banque centrale américaine a baissé ses taux de 75 points de base, ce qui est quand même assez important. Alors, certains disent que ça n'est pas suffisant, certainement, parce qu'il faudra bien autre chose. Mais enfin, en attendant, il y a un certain nombre d'actes. Et pour le reste, je crois que tous ceux qui sont actuellement détenteurs d'une capacité de s'exprimer devraient surtout réclamer qu'on mette de l'ordre. Moi, je pense que le fond du problème, singulièrement en France, mais c'est vrai un petit peu partout, c'est vrai aussi aux États-Unis, d'où la crise est partie, c'est quand même incroyable que les autorités fédérales aient accepté tant au niveau juridique qu'au niveau monétaire, qu'un certain nombre de montages de produits dérivés aient pu se faire. C'est pour ça que les gens actuellement, les banques ne savent plus ce qu'elles ont en portefeuille, ou plus exactement, elles commencent à mesurer ce qu'elles n'ont pas, et c'est pour ça qu'elles font des pertes, qu'elles affichent des pertes aussi impressionnantes, parce qu'on a laissé faire des produits dérivés.
Exact. Il y a aussi le fait, M. Reichmann, que le taux d'endettement par personne était moins élevé, on ne se retrouverait pas du tout dans une situation ce qui se passe du côté américain. Les gens, on calculait ici au Canada que par personne, chaque personne était endettée environ, la moyenne était de 33 000 dollars canadiens, ce qui donne environ 23 000 ou quelque chose comme ça, euros, quelque chose comme ça, là, tout au...
Est-ce que c'est de quel endettement parlez-vous? D'un endettement personnel?
Personnel.
Personnel, d'accord. Oui. Et quel pourcentage au Canada, je ne sais pas quel est le pourcentage...
Allez-y.
De l'endettement par rapport aux revenus? Parce qu'aux États-Unis, les gens sont endettés à 140% de leurs revenus.
Exact.
C'est extrêmement important.
Tout à fait.
En France, c'est de l'ordre de 60% à peu près, je crois. Donc, c'est quand même moindre.
Ici, c'est 25 à, selon, bien sûr, le portefeuille, à 25 à 35%. C'est tout à fait.
C'est très raisonnable.
C'est
pas énorme.
Mais pourquoi le Canada en ce moment, l'ascension du dollar canadien, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le dollar canadien grimpe, non pas parce que le dollar américain baisse, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une demande pour l'économie canadienne, une demande pour les matières premières du Canada.
C'est aussi parce que depuis en 10 ans, l'État fédéral canadien a mis de l'ordre également dans ses finances. Il avait un énorme déficit qu'il a supprimé. Donc là, cette fois-ci, on peut le dire, comme le dit à tort Mme Lagarde en France, les fondamentaux dans l'État fédéral canadien sont bons. Et c'est la raison pour laquelle il y a un climat de confiance, et le reste, bien, l'endettement modéré des Canadiens fait le reste. Mais il n'empêche que quand vous avez un taux d'épargne qui est nul, comme aux États-Unis, c'est zéro, il n'y a pas d'épargne aux États-Unis, il y a un taux d'endettement de 140%, c'est évident que l'économie est fragilisée. Mais enfin, il y a toute une autre série de facteurs, et en particulier le dynamisme américain qui a permis de surmonter des situations très difficiles. Puis aussi le fait que les Américains n'hésitent jamais à faire le ménage. Les Japonais, par exemple, depuis 1989-90, n'ont jamais réussi, au fond, à faire le ménage dans leurs banques, et elles ont trimballé pendant des années et des années, et elles continuent d'ailleurs en partie de le faire, des créances douteuses, si bien que la stagnation japonaise n'est jamais, enfin, le Japon n'est jamais sorti vraiment de la stagnation, que la bourse japonaise, par exemple, qui est actuellement aux environs de 12 à 13 000 points, est toujours à peu près au quart de ce qu'elle était en 1989-90. Alors que les États-Unis ont surmonté, par exemple, la crise des savings and loans, c'est-à-dire les caisses d'épargne, au début des années 90, en faisant le ménage dans les caisses d'épargne. Il y a des organismes qui ont disparu, d'autres qui ont été recréés, etc. Et je pense qu'actuellement, il est déjà en train de se faire un certain ménage. Mais cette fois-ci, ce qui est grave, c'est que ce ménage se fait, bien sûr, par l'élimination d'un certain nombre de dirigeants et probablement, à un moment ou à un autre, par la disparition de certains organismes, mais c'est aussi la conséquence en est que les fonds souverains, c'est-à-dire les fonds des États arabes ou des États chinois ou singapouriens ou autres, viennent désormais prendre des positions au sein des établissements bancaires, et que demain, ces fonds souverains réclameront une part du pouvoir, voire le pouvoir tout entier. Donc, il y a une perte d'indépendance également qui n'avait pas existé dans les crises précédentes.
Monsieur Reichmann, je tiens à vous remercier. On refait le même exercice la semaine prochaine.
Alors à 13h heure locale, si vous voulez bien, c'est plus commode pour moi.
Tout à fait. Si ce n'avait pas été
Non, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je n'avais pas de réunion immédiatement après, donc j'ai pu sans difficulté vous attendre. Dites-moi, la dernière fois, vous aviez indiqué un nombre d'auditeurs que je n'ai pas bien entendu, qui était à l'écoute au début de notre émission la dernière fois. Est-ce que vous en souvenez?
Non, mais je pourrais très bien, en fouillant un peu, vous redonner les
statistiques. C'était au tout début. De toute façon, je le retrouverai quand vous mettrez en ligne.
Si je ne me trompe pas, M. Reichmann, je crois que c'était 269 000 à peu près.
Il me semble que c'était ça. Oui. C'est un très beau chiffre, hein. C'est très bien. Hein.
Écoutez, c'est grâce à vous aussi, hein, M. Reichmann, parce que vous êtes...
J'attends avec impatience le MP3 de notre émission de la semaine dernière pour le mettre en ligne.
C'est juste.
Parce que beaucoup des adhérents, beaucoup de gens qui fréquentent les sites réclament les enregistrements de ces émissions, ce qui prouve qu'ils aiment beaucoup écouter Rockick.
Exact.
Et un peu moi aussi, peut-être aussi.
Juste un petit peu vous. Allez. Soyez modeste quand même. Hein,
voilà. Et donc je serai heureux de recevoir les coordonnées du MP3 de notre émission de la semaine dernière et de celle que nous venons de faire.
Certainement, Monsieur Reichmann, ça me fera un grand plaisir, comme à l'habitude.
Alors à la semaine prochaine.
N'oubliez pas une chose, vous avez été, amené beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie.
Eh bien, j'en suis ravi parce que vous le méritez et puis parce que c'est formidable de pouvoir s'exprimer de ce côté-ci de l'Atlantique vers l'autre et inversement. Et surtout, comme je vous l'ai dit bien des fois, les Français ont pour le Québec une tendresse qui ne se dément jamais. Parce que vraiment nous avons un passé commun et j'espère un avenir commun et nous avons aussi un présent tout à fait commun.
Mais je peux simplement vous dire une chose, je ne crois pas vous l'avoir déjà mentionné, mais lorsque vous venez faire votre intervention, M. Reichmann, j'ai un minimum d'environ entre 17 et 18 000 personnes de plus qui s'ajoutent à nos serveurs.
Eh bien écoutez, on est absolument ravis et que ce petit ruisseau alimente la grande rivière.
Exactement, et vous faites partie aussi de la grande rivière, M. Reichmann, vous n'êtes pas simplement un petit ruisseau. C'est moi qui vous remercie énormément. Merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir, M. Reichmann. Alors, c'était Claude Reichmann. C'est simple, on va s'arrêter un tout petit instant. On botte des derrières. Du lundi au vendredi, Wake Up le show. Si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, il y a plusieurs façons. Bon, vous avez soit de nous écrire de manière interactive ou aussi vous entrez à l'adresse rockick.com et le tour est joué. Vous allez pouvoir parler avec nous on air. On s'arrête un instant, il est 8h45. On botte des derrières. Il est 14h45. On revient. Hey, restez là tout le monde. On est Wake Up ce matin.
Everybody be cool, be cool. Bon les gars, c'est la dernière fois que je vous prends un chien dans les casques. C'est vraiment dégueulasse, ok?